Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2022. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 4, épisode 126. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous. Elon Musk veut sa super app X qui remplacera Twitter. Nous, on a déjà lancé notre super podcast, un condensé tout en un de ce qu'il faut savoir dans le monde de l'e-commerce. Elon, si tu veux mettre quelques millions chez nous, viens, on discute. Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast chéri favori que vous écoutez depuis la Guadeloupe, depuis le Maroc ou depuis le Vietnam. Véridique, j'ai les stats.
Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-douce. Incisif, mais jamais méchant. Voilà qui nous sommes.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
Au sommaire de cette émission, des news simples et funky, du Deliveroo à Londres qui se joue de la loi, du Deliveroo encore à Paris, et puis une alliance française des places de marché, assez surprenant, vous verrez.
Et comme à chaque émission, on terminera avec du fun dans la rubrique Panier Surprise. Laetitia.
Adrien.
Prêt.
Prêt.
Synchronisation des montres.
Charrette, busy, pas le temps, le nez dans le guidon, la tête sous l'eau, vous n'avez pas eu le temps de faire votre veille cette semaine. Eh bien, la rubrique News Simple et Funky est là pour vous sauver. On a listé tout ce qui s'est passé cette semaine, de l'actualité chaude, intéressante à ne pas louper, mais aussi du fun et parfois totalement what the fuck. Vous trouverez le détail de ces infos dans la description de l'épisode.
Instagram commence à retirer l'onglet shopping de son app.
Ça n'a pas duré bien longtemps. La mairie de Paris attaque plus d'une quarantaine de dark stores en justice. Descente de police dans 5 sites de Flink à Paris avec amende à la clé.
Facebook met fin à Bulletin, son service de newsletter. Je crois qu'on en avait parlé l'année dernière, Laetitia.
Ça n'a pas duré longtemps non plus.
Non plus.
À Londres, Deliveroo ouvre, hop. Eh bien, c'est un accès pour le grand public qui commande directement depuis une board. Et puis derrière, bah, y a le dark store. Voilà, la petite ingéniosité, on va dire ça comme ça.
Ils vont ouvrir un restaurant, ça s'appellera un restaurant, mais ils vont trouver un dark store, front, je sais pas quoi. Et puis, bon, voilà.
Dark Bravo kitchen, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Toujours plus.
Dark kitchen avec réception des personnes et possibilité de commander devant des personnes. Ça s'appelle un restaurant, quoi. Le DSA approuvé par l'Union européenne. Le DMA a été approuvé il y a un mois. On en avait beaucoup parlé. C'est une nouvelle loi. Enfin, c'est de la même ampleur que RGPD. C'est des règles qui ont trait au marketplace, au dark pattern, au ciblage des personnes, plus de transparence dans les algorithmes. On en avait beaucoup parlé dans l'épisode 109. On vous invite à l'écouter. Donc, tout a été validé côté européen. La mise en place, elle va suivre la début 2023 et je pense que les amendes vont commencer à tomber 2024.
Le printemps poursuit son incursion dans le Web3 avec le lancement de sa marque de mode virtuelle sur printemps.com nommée Digital Fashion by Printemps.
On n'aurait pas dû atterrir dans le Balek cette news.
J'ai hésité. Okay. Surtout que je suis allée sur le site et que c'était pas très simple.
TikTok pourrait revenir dans le live shopping en l'externalisant via un partenariat avec la plateforme Talkshop Live. En juillet dernier, ils avaient pris la décision de stopper le live shopping suite aux tests qu'ils avaient fait en Angleterre. Et en août dernier, il y a quelques mois, c'est Meta qui avait annoncé fermer Facebook live shopping.
Showroom privé, à son tour, dévoile son programme de seconde main qui s'appelle Second Show.
Kiabi élargit sa gamme de produits pour son modèle de location de vêtements via la formule de l'abonnement. Je suis allé sur le site, c'est 19€ pour 5 produits. Je crois que pour 10 produits, c'est 29€. Et voilà, c'est dégressif. 5 produits, 19€, ça me paraît beaucoup, non? C'est pas beaucoup?
Je ne sais pas, j'ai pas d'éléments de comparaison.
Ok, bon. Et la location, c'est les locations des produits neufs. Ça, c'est très, très cool. C'est-à-dire, tu loues et ensuite, tu loues que du neuf, quoi. Et après, ça va dans les circuits seconde main, etc.
Ah oui, après, ça va dans un circuit de seconde main.
Voilà, c'est pas de la location de seconde main, c'est de location du neuf. Ça, je trouve ça vraiment très sympa.
Nom de code, l'Alliance française des places de marché. Eh bien, il s'agit de qui? De Backmarket, eBay, ManoMano, Etsy et Rakuten qui ont décidé de créer leur propre fédération de marketplace en France.
Il n'en manque pas un. Pinduoduo, seul acteur e-commerce en Chine à croître au deuxième trimestre 2022 en Chine. Ils ont fait plus de 10% de parts de marché en e-commerce. Donc, ils continuent à grandir, ça continue à prendre de l'ampleur et ils commencent à regarder au marché américain.
La Grande-Bretagne remplacera le grand méchant RGPD par son propre système, moins lourd. C'est la secrétaire d'État au numérique qui l'a annoncé. Elle dit, je cite, « Je peux promettre que ce sera plus simple, ce sera plus clair pour les entreprises de s'orienter. Nos entreprises ne seront plus enchaînées par de nombreuses formalités administratives inutiles. »
Toujours le flegme britannique. Zalando qui fait un partenariat avec, avec Nike. Donc, c'est amusant parce que Nike avait stoppé de vendre ses produits sur Amazon.
Sur Amazon.
Et là, on voit quand même qu'ils, qu'ils font des partenariats avec des marketplaces. Tu vas pouvoir utiliser ton compte Nike et le connecter sur Zalando et avoir accès à certains produits exclusifs. Ça, on pourrait se dire bah, il part d'une marketplace pour aller dans une autre, mais la différence que je vois ici, c'est qu'ils contrôlent beaucoup plus la, la relation qu'ils ont avec leurs clients. Donc, ça va dans leur stratégie D2C qu'ils avaient entamée il y a quelques années.
Les levées de fonds et les rachats de la semaine.
ShipUp, acteur français du post-achat, racheté par le Suisse Global Blue. J'allais dire le petit Suisse, mais en fait, ils ne sont pas petits du tout, c'est très gros. Je ne connaissais pas, mais ils sont très, très, très gros. Ils sont dans tout ce qui est détax, pas très sexy, mais bon, en fait, ils sont, très, ils sont leaders, ils sont gros dans, dans ce domaine. Et ils avaient déjà racheté Zigzag l'année dernière, qui est un acteur de gestion des retours. ShipUp, c'est suivi de commandes et notifications des commandes, donc ça fait une solution.
Adrien, ShipUp, ce n'était pas dans l'incubateur de je ne sais plus qui.
Qui, ShipUp?
Ouais.
Ouais, peut-être que je, ouais, je crois bien. Oui, oui. Non, si
ils appartenaient déjà à ouais. quelqu'un. Bon.
En tout cas, belle sortie pour ShipUp. Félicitations à eux.
AB Testier rachète Époque, solution allemande de personnalisation.
Je crois que c'est la première solution qu'AB Testier rachète. Donc bravo à eux aussi. Worldline annonce un record. Pardon,
non,
un accord.
Un record.
Peut-être aussi un record, on ne sait pas, mais ils annoncent un accord pour l'acquisition d'une participation de 40% dans OPP, c'est Online Payment Platform. C'est une PSP ou un PSP hollandais spécialisé marketplace et plateforme.
Instant Commerce vient de lever 5,4 millions d'euros. Et je crois qu'en fait, on s'est trompé là. Non. C'est pas grave,
ouais,
c'est moi qui l'ai dit.
C'est pas très grave. Mais c'est
5
pas très
millions
grave.
D'euros.
Voilà, et c'est un storefront builder, donc ils sont headless, tu vois, headless partout sur leur site, et ils vont accompagner la plateforme e-commerce headless. Et Laetitia, t'avais autre chose pour nous ?
Eh ben oui, c'est le Toulousain Iron, spécialisé dans les articles de sport et notamment de chaussures, qui vient de boucler une levée de fonds de 100 millions d'euros. Bravo Toulouse ! Et la news complètement what the fuck de la semaine, Adrien, quelle est-elle ?
C'est Farfetch, Farfetch qu'on voit souvent, qui, enfin, marketplace. Où tu peux vendre des, enfin acheter des produits plutôt haut de gamme.
Haut de gamme, ouais.
C'est ça, qui annonce qu'ils vont activer 6 cryptos de paiement dans 37 nouveaux pays. J'hésitais entre le what the fuck et le inutile. Donc, la news, elle est, tu peux dire, waouh, ils sont innovants. Et puis, c'est qu'ils communiquent dans leur PR. On est toujours là, on avance, etc. En réalité, ils ont rajouté un PSP ou un acteur qui s'appelle Triple A ou Triple A qui permet de faire des paiements en crypto. Donc, si tu veux, ils intègrent un PSP ou un outil qui va permettre d'activer. Donc, du coup, la news d'activer plus de cryptos dans plein de pays, ça fait... Bah, moi, ça me fait sourire parce que je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de personnes qui achètent en crypto, mais en tout cas, ça permet de continuer pour de communiquer et de, je ne sais pas si c'est faire du bruit, mais en tout cas, de se positionner comme une marque qui innove et qui avance. Et la news inutile dont on s'emballait, Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous cette semaine ?
Eh bien, dans le métaverse, figure-toi que Nike a déjà accueilli 20 millions de visiteurs. Est-ce important ou pas ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, le chiffre est là, 21 millions.
Au total, je crois donc c'est depuis le début. Donc faut, je me souviens plus de la période sur laquelle c'est. C'est vrai que ça me parle pas beaucoup. Je sais pas trop.
Bah, j'arrive pas à dire si c'est beaucoup ou pas.
Enfin, dans l'absolu, on pourrait dire que c'est beaucoup.
Bah, bah non, moi j'ai envie de dire que c'est peu.
Ouais. Mais après, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais on a déjà vu, c'est beaucoup de com pour, enfin, de branding sur la marque, etc., de se positionner comme innovante. Je ne sais pas si tu as vu un super gros fail. Ah, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas s'il est récent ou pas. C'est le président de Walmart, le CMO de Walmart, qui est dans le métavers et qui fait son lancement. Il n'y a qu'une seule personne dans l'assemblée. Non, tu n'as pas vu ce truc ?
Non,
un gros
fail
sur Twitter. Oh, ça. Ça, c'est comme si Monsieur Nike va présenter son nouveau truc métavers et il y a un grand stade et dedans il n'y a qu'une seule personne. Ça fait pitié, ça fait, bon, c'est triste malheureusement. Un gros fail.
Même nous, on a plus de monde lors de nos lives.
Ah, je vois. Ça dépend des gens, mais ouais. Quoi de neuf chez nous ? Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce ? Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas enregistré un épisode normal. Ne stalkez pas, on vous dit tout ici et maintenant. Alicia, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, peut-être pas ces trois dernières semaines, mais au moins ces derniers jours.
Ah, bah, moi j'étais plutôt oui sur cette dernière semaine. Cette dernière semaine, eh bien, j'étais au One-to-One Digital de Biarritz, qui est un événement récurrent qui se passe tous les ans à la même période et qui est dédié aux décideurs du digital. Donc, comme bien souvent, alors derrière, c'est comme Exposium, donc c'est toujours un peu la même mécanique qu'on peut retrouver à Monaco ou même à à Paris Retail Week dans une moindre mesure, mais on est tous invités pendant 3 jours, alors invités non, puisque nous, éditeurs, nous payons, à rencontrer nos pairs et rencontrer surtout des clients et des prospects pendant 3 jours. Mais écoute, Biarritz, c'est pas la première fois que je le fais, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, que ça avait changé, que c'était un petit peu moins, on va dire, lourd que Monaco. La typologie des gens qui sont présents, bah, c'est beaucoup d'agences. J'étais contente de
retrouver...
Ils sont plus
relax, non ? C'est une meilleure ambiance. Moi, je préfère l'ambiance de Biarritz.
Complètement, c'est totalement relax. Ouais. Les gens font du surf avant de venir au meeting et ils partent...
Ils sont plus détendus.
Carrément.
Mais c'est moins, il y a moins de monde, c'est peut-être ça joue aussi, c'est plus
intimiste. Il y a moins de monde, mais justement, c'est ce que je voulais dire, donc je le dirai tout à l'heure, mais le fait qu'il y ait moins de monde, bah, on fait des rendez-vous de meilleure qualité, on est moins fatigué et on est plus apte à faire d'autres choses comme des activités sportives ou du networking autrement. En tout cas, pour la typologie des gens qui sont présents, bah, il y a bien sûr des agences et moi, je suis contente parce que sur des événements comme Monaco, on voit un peu moins les agences et là, j'ai trouvé que les agences étaient montées en gamme, que c'était plus la petite agence perdue, qui connaissait rien, non. Elles sont toutes ultra qualifiées et elles sont toutes sur, je n'ai pas envie de dire sur des segments de niche, mais en tout cas, elles sont très spécialisées dans ce qu'elles font dans le monde du marketing digital.
L'intelligence, pour moi, elle vient de l'agence. L'écosystème agence, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un événement avec des agences, il y en a
exactement.
Pas.
Exactement,
c'est eux qui savent exactement ce qu'ils font.
Et
ils
ceux qui connaissent
le client.
Ils
comprennent les éditeurs, ils comprennent les consommateurs. Donc, c'est une grosse frustration, mais les mecs qu'il faut écouter, c'est les agences, ces personnes-là, et c'est pas les éditeurs. Bon, bref, ce sera une longue discussion.
Exactement.
Donc, c'est cool de pouvoir parler. Mais bon, ils continuent à filtrer. Hein. Tu dis qu'il y a plus d'agences, mais je suis sûr que les agences qu'il y avait, ou ce que tu appelles agence, c'est les Accenture et compagnie, non? Les très grosses.
Non, il n'y avait pas d'Accenture. Pas du tout. Pas du tout. Tu avais même des agences locales. Donc, non, il n'y a pas d'Accenture, il n'y a pas de. Où on t'a D'Artagnan qui est hyper connu, qui est très connu pour du marketing automation. Voilà. Non, vraiment, là, on n'était pas sur la grosse agence parisienne qui vient t'expliquer comment est-ce qu'on fait du marketing digital. Pas du tout. Et c'était vraiment même très local. Le deuxième point, c'est que, il y avait des éditeurs, pas tant que ça, finalement. On n'était pas trop de concurrents, donc plutôt cool. Et le troisième point, c'est les plateformes de réseaux sociaux, de social media. Elles étaient toutes là. Il y avait du Meta, il y avait du Pinterest, il y avait du TikTok, il y avait du Snapchat. Tout le monde était là. Franchement, voilà. Donc, ça aussi, c'est assez récent dans notre milieu. Souvent, elles sont représentées par des agences. Et là, non, maintenant, elles ont un stand, elles sont là. Elles tiennent, du coup, j'ai un peu discuté avec elles, elles tiennent un discours qui tient vachement la route. On voit que ce n'est pas pour opportunisme. Alors oui, bien sûr, il y a de l'opportunisme partout. Mais là, en tout cas, les gens qui représentaient certaines de ces plateformes étaient aussi très qualifiés. Et en ce qui concerne les ateliers, bien évidemment, ce sont ces plateformes qui menaient la danse et qui organisaient pas mal l'atelier. Je n'ai pas eu le temps de faire d'atelier, mais rien que les sujets, ça avait l'air hyper intéressant. Donc voilà, on a un nouveau paysage dans le marketing digital qui est assez intéressant, représenté de nouveau par les agences, représenté par les plateformes de réseaux sociaux et puis les éditeurs. Sur l'événement lui-même, c'était très cool, voilà. Et comme le disait Adrien, plus accessible, plus détendu, et c'était pas un salon où on revient. Alors bien sûr que si on revient toujours épuisé, mais là on est un peu moins rincé. Et assez étonnant du coup côté annonceur, il y avait pas mal de retailers et pas mal de marques B2C. Je pensais pas, et finalement oui. Donc bien évidemment le sujet e-commerce revient d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas le sujet central de cet événement. Donc voilà, très bon événement. Je vous encourage à y aller. Si vous êtes retailer, annonceur, faites-vous inviter par les éditeurs. Voilà.
Si vous êtes un éditeur, mettez 20 000 balles pour y aller. Voilà, c'est ça en gros.
C'est comme ça que ça se passe.
Le Biarritz, c'est un événement marketing. Le Monaco, c'est un événement e-commerce. Mais bon, il y a plein de... Enfin, les frontières
se rejoignent. Ça se rejoint.
C'est les mêmes sujets qu'on discute.
Quelqu'un qui vient de voir pour un sujet de marketing digital, bien évidemment que derrière, au bout d'un moment, il va te dire, mais en fait, moi, j'ai un problème avec ma plateforme e-commerce. Voilà, ça, c'est du classique.
Il n'y a jamais de problème sur sa plateforme e-commerce. C'est quoi? Quand tu vas au salon e-commerce, ils disent le truc marketing ne marche pas du tout.
Exactement.
Bon, c'est des débats sans fin. Autre chose, Laetitia?
Ah oui, autre chose. Bien évidemment, j'ai animé un workshop sur la personnalisation. Et c'était hyper intéressant.
Personnification ou personnalisation?
Non, personnalisation, c'est autre chose, la personnification. J'ai parlé du podcast, bien évidemment, en introduction. Donc, je crois que maintenant, nous avons des nouveaux abonnés, puisque des gens sont venus me voir en me disant « Je viens de m'abonner ». Donc, j'étais tellement contente.
Tu leur as demandé 5 étoiles ou pas?
Non, pas là. Non, la semaine d'avant, à l'EBG, oui, à Bruxelles. Alors là, j'ai pris des téléphones et j'ai... J'ai mis les étoiles à la place des gens. En tout cas, pour ce workshop, j'étais assez contente. On était entre 20 et 30 personnes. Le sujet de la personnalisation, qui est quand même très lié au e-commerce, finalement, on a réussi à le retourner sur un sujet de contenu. Donc, bien évidemment, on a parlé des réseaux sociaux et de choses comme ça, mais aussi d'in-store, ce qui se passe en magasin. Et j'étais ravie de voir que les gens avaient, alors, à la fois ravis et pas ravis, mais que finalement, les préoccupations ne changent pas et que c'est toujours la même chose. C'est comment est-ce que je fais pour mieux connaître mon client et que j'y arrive toujours pas. Voilà. Donc, c'est à la fois fascinant et à la fois frustrant de se dire qu'on a toujours les mêmes problématiques et qu'aucune solution n'a réussi à trouver.
Je te fais une prédiction magique. Dans 10 ans, ça sera encore les mêmes questions qu'on se posera.
Je pense. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine.
Ok, bah écoute, de mon côté, bah déjà, petit coup de gueule, parce que c'est le dernier commentaire qu'on a eu remonte à début août. Donc, les nouveaux auditeurs, si vous utilisez l'environnement Apple, bah mettez un petit commentaire, une bonne note, et puis on le lira. Donc, allez-y, faites-le, ou alors faites comme Laetitia, volez les téléphones autour de vous et faites-le. Les gens n'utilisent même pas Apple Podcast, donc ils ne savent même pas ce que vous faites de leur téléphone. Blague à part, plein d'annonces là qu'on va faire, donc je voulais les partager. La première chose, c'est la mise en place d'événements e-commerce, enfin d'événements Le Café de l'e-commerce, pour pouvoir rencontrer notre communauté ou toutes les personnes qui sont intéressées pour discuter d'e-commerce. Donc le prochain, bah, ça va être la semaine prochaine. Donc je pense au moment où les gens écouteront, ça sera peut-être passé. C'est le jeudi 13 octobre prochain à Paris. On est déjà complet, mais il y a une liste d'attente. On n'avait pas prévu qu'il y ait autant de personnes qui s'inscrivent. On devrait être environ 16 personnes, ce qui est vraiment le max où le restaurant peut nous recevoir. Le prochain, ça sera ensuite le mercredi 9 novembre en format déjeuner. Et là, on va laisser l'ouverture des inscriptions. Et puis, en fonction du nombre de personnes, on trouvera un endroit pour nous accueillir. Et enfin, on organise en décembre le repas de Noël ou l'Happy Hour de Noël. Ça sera le mardi 13 décembre 2022. Vous avez les liens en note de l'émission pour pouvoir vous inscrire. C'est complètement gratuit. C'est accessible à tout le monde. Si vous
et le thème, c'est Secret Santa. Donc, voilà.
Ah ouais, on fait comme ça? Non,
non, je plaisante. Mais justement, Ariane, j'allais te demander c'est quoi le but de ces événements? Parce que du coup, je dis événement e-commerce, il n'y a pas de stand, il n'y a rien du tout, les gars.
Non, 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 c'est pas un événement, pardon. Non, c'est juste une rencontre. Bah, c'est vous rencontrez entre vous. Bon, bref, enfin, est-ce qu'il faut vraiment une raison pour. Oui, bah, ouais, je sais pas. C'est peut-être l'objectif, c'est de se rencontrer et de discuter e-commerce. Et on peut discuter de tout d'ailleurs, pas juste e-commerce. Et j'adore les personnes qui viennent toutes seules d'ailleurs, les personnes qui viennent seules pour rencontrer pour rencontrer l'écosystème. On trouve ça très très cool. On a déjà des inscrits pour les séances, pour les sessions, enfin de novembre et de décembre. Donc on est extrêmement ravis. Et puis c'est surtout suite à la Paris Retail Week qu'on a fait ce petit événement. On pensait être 10 personnes, on était une quarantaine et on s'est dit bah banco, il faut qu'on le fasse plus régulièrement.
Donc pour vous inscrire, ce sera en note dans la description de cet épisode. Ouais. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver sur Eventbrite, tout à fait. Vous tapez Le Café de l'e-commerce.
Je vais accélérer parce qu'il y a plein d'autres trucs à raconter. On a lancé également notre newsletter. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivaient mais qui ne nous écoutaient pas. Ça nous va très bien. Il y a des personnes, le format c'est l'audio, d'autres personnes c'est le groupe WhatsApp, d'autres c'est les newsletters. On ne l'avait pas fait. Je sais que toi tu es une grande fan ou utilisatrice des newsletters. On a déjà une centaine de personnes qui sont inscrites. Moi je suis bluffé. On a littéralement lancé là il y a quelques semaines mais en sous-marin sans le communiquer. Donc inscrivez-vous si vous souhaitez recevoir sous format écrit, les news marquantes de l'épisode, c'est ça Laetitia?
Oui, c'est exactement ça. Puis en plus, vous les recevez un petit peu en avant-première avant qu'on
ça
communique
combien,
officiellement.
La newsletter, elle coûte combien par mois?
Aucune idée. Alors là.
Non, c'est gratuit. C'est gratuit.
Ah oui, d'accord. On n'est pas sur l'autre sujet. Sur...
Ah non, non, non.
C'est
gratuit. Mais la gratuite.
C'est sur un Substack, c'est gratuit. Ah, il oui. n'y a pas de problème.
Oui, mais tu sais, Substack, c'est les newsletters payantes, etc. Nous, c'est comme d'habitude, tout est gratos. Donc, servez-vous.
C'est du contenu premium.
Inscrivez-vous. Et dernière chose, on lance notre Patreon. Et ouais, on parle de sous-sous maintenant. l'idée, ça fait un moment qu'on y réfléchit. Enfin, surtout, j'y réfléchis. Et on s'est dit, on a envie de continuer à être indépendant. On a envie de continuer de pouvoir faire des événements, de vous rencontrer, de lancer des projets et pas nécessairement d'être limité par un budget. Alors voilà, on s'est dit que ça serait plutôt cool. Si vous souhaitez nous soutenir, on a lancé une page Patreon. C'est complètement facultatif. Il n'y a pas de contenu exclusif, il n'y a rien du tout. C'est vraiment pour nous soutenir. Mais l'épisode, le format reste comme il est. Et si vous voulez, par exemple, ça paiera notamment là, les événements le Noël. Ça serait cool d'inviter tout le monde, tu vois. Par exemple, je m'engage un petit peu si on est 50. Mais bon, faire des trucs et puis utiliser ça pour continuer à produire des choses et continuer à être indépendant. Donc, vous avez le lien du Patreon. Vous laissez 10 centimes ou 100 euros, on sera content. C'est la même chose pour nous. Et si vous ne laissez rien du tout, on est également très content. Tu as quelque chose à rajouter?
Non, c'est parfait. J'aime beaucoup cet esprit collaboratif. Go sur l'épisode. Allez, on y va. Breaking news, c'est parti. Breaking news, les big news que tu ne lis pas. On les analyse pour toi. On en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Adrien, aujourd'hui, vient nous parler de Google Shopping.
C'est le retour d'Iki le Phénix, point d'interrogation. Et oui, alors la news, elle est un peu périmée parce qu'elle date déjà d'il y a 10 jours, je crois. Fin septembre, enfin peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as peut-être vu passer dans tes flux. Ce n'est pas directement lié à l'e-commerce parce que c'est Google qui présente sa conférence annuelle autour de son moteur de recherche. Ça s'appelle Search On. C'est une conférence que vous pouvez suivre sur YouTube. Je l'ai regardée, elle dure une heure. Elle est extrêmement intéressante. Peut-être qu'il n'y a que moi que ça intéresse, mais je trouve ça extrêmement intéressant pour n'importe qui. Si vous travaillez dans le digital ou même si vous êtes juste utilisateur de Google, et on sait qu'il y a plus de 90% qui utilisent Google comme moteur de recherche, donc de toute façon, tout le monde est impacté. Et donc, tu as Google pendant une heure qui va t'expliquer quelles sont les nouveautés qui arrivent, qu'est-ce qu'il y a dans la roadmap autour de la recherche. Ils ont beaucoup parlé de Google Maps, et d'ailleurs, dans les trends, c'est ce qui a le plus marqué. T'as une démo bluffante, mais je vous laisse aller regarder sur la vidéo pour regarder un petit peu les choses qui sont en train d'améliorer, comment tu peux aller dans les magasins, etc. Autour de Google Lens, la traduction, la privacy, la sustainability, etc. Et à un moment donné, on parle de Google Shopping. Et donc, c'est ce qui m'intéressait. Je voulais te lister les quelques fonctionnalités qu'ils avaient listées. Déjà, ils nous expliquent que tu as plus d'un milliard d'utilisateurs par jour qui utilisent Google Shopping. Je trouve ça vraiment
c'est énorme.
Donc on voit que c'est énorme, exactement. Ça drague un trafic de fou furieux. Les quelques fonctionnalités, ensuite je vais dire ce que j'en pense. La première chose, c'est le multi-search. On en avait déjà parlé. L'idée, c'est que tu puisses prendre une photo et ajouter du texte. Et comme ça, tu peux mêler une recherche un petit peu contextuelle ou complexe. La possibilité, et ça, tu peux le faire dès maintenant sur ton téléphone, tu fais shop, espace, et tu mets un truc comme jean, par exemple, et ça va directement te proposer des produits contextualisés. Donc, c'est une nouvelle interface, on va dire, dans les résultats de recherche. Quand tu tapes shop plus un produit, tu vas avoir des produits qui vont être affichés. Ce ne sera pas des résultats, des liens, mais ça sera directement des produits. Tu vas pouvoir voir des tendances, le fameux shop de look, parce que ça a été repris partout dans les news. Tu vas pouvoir également retrouver dans le shopping des produits en 3D. Il t'explique qu'un produit en 3D, ça engage 50% de plus qu'un produit normal. Bon, ça, je challengerais parce que... Ouais, ok. Peut-être que ça engage plus à jouer avec le truc, mais est-ce que ça te fait plus acheter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils te permettent de pousser les produits en 3D. Et jusqu'à maintenant, faire un produit en 3D, c'était très compliqué. Ils vont également te donner les outils. En quelques photos, tu vas pouvoir pousser ton produit en 3D. Un buying guide. Donc là, c'est plutôt pas mal. Si tu dis, par exemple, meilleur téléphone 2022, ils vont pouvoir te donner directement des résultats, des curated. Donc, comment on pourrait dire ça en français?
Pertinent.
Nettoyé, ouais. Pertinent,
curated, ouais. Oui.
Non, c'est... Ouais. Bon, c'est sélectionné, on va dire, pour que tu n'aies plus à chercher, à faire les comparatifs, etc. Parce que c'est toujours de site. Là, tu vas pouvoir savoir directement les produits qui t'intéressent. Donc ça, on va revenir tout à l'heure sur le buying guide. Des page insights, ça, moi, j'ai trouvé, mon cerveau, il a explosé. Écoute... Tu l'as vu ça, non? Tu me dis oui, tu l'as vu?
Non, vas-y.
C'est extraordinaire. Tu vas sur n'importe quel site, tu vas pouvoir avoir un petit onglet Google et tu vas le swiper et là, tu vas pouvoir, par exemple, traquer le prix et puis savoir quand est-ce qu'il y a une baisse de prix, par exemple. Tu vas pouvoir avoir des reviews sur un produit. Si tu veux, c'est comme si c'était une surcouche à ta navigation et tu vas pouvoir avoir des informations. Évidemment, en l'occurrence, dans un environnement Android, comme tout est intégré, ça va être très facile. On va voir avec Apple et s'il faut utiliser l'app Google, comment c'est intégré. Mais en tout cas, la promesse, je la trouve extrêmement forte, également extrêmement dangereuse parce que ça veut dire que tu peux contrôler des choses que la marque ne contrôle pas. T'as la marque, t'as son site, mais tu vas pouvoir avoir un overlay sur la PDP et afficher des informations. Ils sont là pour aider le consommateur in fine. Mais voilà, en tant que consommateur, je suis super content. En tant que marque, j'essaierai de voir un petit peu vers où ça va. Mais ce Page Insight, ça peut vraiment être un game changer à mon sens. Et enfin, des fonctionnalités autour du profiling avec de la personnalisation. Beaucoup de choses.
Beaucoup d'annonces, oui.
Beaucoup d'annonces produits spécifiques. Ce que j'en retiens. Le buying guide, donc le guide d'achat, j'ai trouvé ça incroyable. Mais est-ce que ce n'est pas une recherche dans la recherche? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils te disent qu'ils récupèrent des informations sur des sources trusted, de confiance. Pardon. Mais demain, il n'y a qu'un pas à ce que tu puisses acheter ton positionnement pour être bien dedans. Donc en fait, tu aurais de l'ads dans un truc. Donc, et vu que c'est le business model de Google, j'attends de voir est-ce que ce sera vraiment quelque chose qui sera complètement pertinent. Et en plus, c'est peut-être un aveu d'échec aussi, parce qu'à la base, Google, ils te disent on va te donner le résultat le plus pertinent. Donc s'ils sont obligés de rajouter une couche,
c'est
rajouter
que c'est pas
truc,
pertinent au tout début. Ouais.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que tous les autres résultats, c'est un petit peu pipeau. Donc bon, voilà. Deuxième chose, tu ne peux pas penser à Amazon et à TikTok quand tu vois ça. Amazon, quand tu vas dessus, tu sais ce que tu veux acheter. Là, ils essayent avec Google de te donner des suggestions de choses que tu saurais pas dans la recherche, de t'aider par différents moyens de pouvoir te guider dans ton acte d'achat. Et TikTok, qui est le nouveau Google, ça va dans les deux. Si tu sais ce que tu veux, tu vas pouvoir le trouver et tu vas pouvoir également être influencé ou avoir des tendances ou découvrir des nouvelles choses. D'ailleurs, en découvrabilité, je crois que TikTok est imbattable là-dessus. Il y a l'écosystème qui va beaucoup les aider. Hier, il y avait une grosse conférence Google où ils ont annoncé plein de nouveaux produits. Je pense qu'en ça, ils sont beaucoup plus similaires à Amazon parce que tu vas avoir l'écosystème des produits plus la partie, on va dire, e-commerce. Et voilà, donc plein de choses à dire finalement. J'ai parlé beaucoup du UX. Enfin, dans le passé, je critiquais beaucoup Google Shopping sur son UX et sur la manière de mieux construire quelque chose qui soit pertinent et utilisable. Et finalement, je pense, et ça m'a conforté hier quand j'ai vu la conférence Google sur les nouveaux devices, je crois que la grande force, c'est l'IA. Et c'est ce qui les sauvera. En tout cas, ma prédiction, qui est peut-être foireuse, mais notamment dans Google Shopping, plus ils vont mettre d'IA, et là, ils ont certainement beaucoup d'avance sur beaucoup d'acteurs, quoique avec Amazon, c'est encore une autre histoire, mais ils peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu et faire en sorte que le consommateur se dise « Waouh, pourquoi j'irai ailleurs si je peux avoir toutes les réponses à mes questions directement dans Google ?»
Adrien, tu as des dates de mise en disponibilité sur la France?
En fonction, ça c'est la question compliquée, parce qu'en fonction de ces features, il y en a certaines qui sont dispo maintenant, d'autres qui vont arriver plus tard juste aux US et ensuite en Europe. Donc j'ai pas la réponse, et là je vous invite à aller regarder plus en détail les fonctionnalités. Donc voilà, écoute, c'était très intéressant. Et tu sais, en début d'année, et je vais terminer là-dessus, en début d'année, j'avais déjeuné en off avec peut-être Monsieur Google Shopping en Europe, et il m'avait donné beaucoup d'insights. J'en avais partagé quelques-unes au micro. Ne me donnez jamais de secrets, je vais les répéter au micro. Non, je rigole. Il y a des trucs qu'il me disait, j'ai pas répété, mais en fait, tu te rendais compte que leur business model, c'est la pub. Google Shopping, ils s'en fichent complètement. Et là, avec TikTok notamment, avec Amazon, avec tout ce qui se passe, entre le début d'année et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y a eu des changements
Amazon,
de stratégie en interne.
On a mis un gros coup de fouet et on fait réfléchir le modèle.
Je suis d'accord avec toi. Et donc, il faut qu'ils se positionnent, il faut qu'ils continuent à investir massivement là-dessus. On passe à la suite, Laetitia. Tu es encore dans ta phase feel good. Je sens que tu vas nous parler d'une bonne nouvelle, quelque chose qui va nous égayer.
Ah, une bonne nouvelle, ouais. Non, c'est pas feel good, c'est ce qui se passe. C'est un état des lieux de ce qui se passe dans notre marché, dans notre écosystème retail et principalement magasins et prêt-à-porter. Il s'agit bien évidemment de la fin de Camaïeu. Moi, j'ai été vraiment à titre personnel hyper peinée, hyper touchée parce qu'on a grandi avec Camaïeu. C'est un peu une espèce de Madeleine de Proust. Moi, quand j'ai vu que c'était terminé, je me disais c'est le magasin de ma mère, de mes tantes qui ferme. Et c'est surtout que je n'imaginais pas la brutalité de la fermeture, même si ça, on le sentait, on voyait bien que depuis la reprise de Michel Oyon, ils n'arrivaient pas à relever. Mais moi, en fait, j'avais pas cette vision, j'avais une vision très numérique et très digitale de Camaïeu, qui pour moi était assez précurseur dans l'écosystème retail français, qui s'est très rapidement mis sur le digital, qui s'est doté d'un site internet pas plus tard que les autres. Donc j'ai lu un peu par-ci par-là que Camaïeu avait loupé sa transfo digitale. Non, c'est faux quoi. Je sais que nous, côté éditeur, qui n'a pas voulu travailler avec Camaïeu? Ça faisait toujours partie des target comptes. Où que vous soyez, dans quel secteur que vous soyez e-commerce, tout le monde voulait toujours travailler et vendre quelque chose à Camaïeu. Pourquoi je décide de parler de Camaïeu? C'est parce que pour moi, ça représente un peu la fin d'un modèle français du prêt-à-porter. Finalement, bah, aujourd'hui, Camailleux s'est retrouvé entre deux modèles. Le modèle du luxe, qui n'a pas connu la crise malgré le Covid et malgré toutes ces choses-là, et c'est tant mieux. Et puis, ce modèle de fast fashion, je parle bien évidemment de discount. Alors, on va parler forcément d'un H&M et d'un Zara qui est arrivé et qui a foutu un peu tout son bazar, mais pas que. On a aussi des Shein ou d'autres acteurs moins low cost, mais qui ont des modèles business un petit peu plus échaudés. Je pense par exemple à du Zalando, des choses comme ça. Donc, on parle de marketplace, c'est différent, mais qui ont mis un petit, bah, qui ont un peu mis Camailleux un premier pas, en tout cas dans la tombe. Donc, finalement, compliqué. Il y a d'autres acteurs comme ça français, du type André, Promode, Pimki, Naf, qui vacillent, ou des acteurs internationaux comme Gap, par exemple. On a assisté en France à la fermeture de nombreux magasins. Je ne sais même plus où est-ce qu'il y a encore de magasins Gap en France, c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est ce qui se passe chez Camailleux, c'est symptomatique de quelque chose qui se passe dans un écosystème plus large, qui est celui du prêt-à-porter en France, du textile en France. Comment est-ce qu'on fait pour survivre face à des acteurs du luxe qui ne connaissent pas la crise et face à des acteurs sans vergogne du fast ou du fast fashion. Donc je voulais en parler parce que moi je suis même allée dans les magasins quand ça a fermé en fait. Je suis arrivée juste à la fin et c'était très triste. C'était vraiment, on sentait qu'il y avait une page qui se tournait. J'ai fait deux magasins et dans les deux magasins, et bien la directrice avait laissé un mot génial. Super attentionné, il y a des gens qui venaient donner des chocolats, qui venaient donner des fleurs à l'ensemble des vendeuses des magasins. Donc je pense que c'est un élément marquant. C'est quand même 2600 personnes qui se retrouvent sur le carreau. Voilà, et d'un point de vue plus numérique, plus digital, moi je regardais tout le temps ce qui se passait sur le site. Donc avant l'annonce définitive de la fermeture, le site était toujours actif, toutefois vous ne pouviez pas commander. Et on ne peut plus jamais commander de toute façon. Parce que moi, je me disais peut-être que l'activité digitale va continuer. Non, il n'y a plus rien, c'est fini. Ils ont hyper bien communiqué. Les newsletters pour annoncer, c'était toujours très propre, très digne. Les newsletters, enfin l'email de clap de fin du samedi ou du dimanche aussi, pareil, il était beau. Limite, moi, il m'a mis les larmes aux yeux. Et pour aller jusqu'au bout, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas vu de communication pendant que je suis allée voir. Mais moi, j'avais la carte de fidèle Camailleux. Et même sur ça, j'ai reçu une notification. Camailleux, c'est fini, adieu, merci pour tout. Donc j'ai trouvé qu'il y avait cette relation client qui a été hyper bien menée et jusqu'au bout la marque est restée digne et s'est battue. Donc voilà pourquoi je voulais en parler cette semaine et surtout vous dire que il va certainement y avoir d'autres marques et j'ai pas vraiment
justement,
envie
c'est
qu'il y ait
question,
d'autres marques. Mais
c'était ma question, c'est quoi
les
prochaines?
Il y aura un effet domino. Je ne vais pas faire de pronostic, mais il y a quand même un effet domino qui va forcément arriver. C'est triste pour nos magasins, c'est triste aussi pour les centres commerciaux, c'est triste pour tout toute la maille française. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas trop, à part continuer à aller dans ces magasins et arrêter d'acheter sur Shein. Voilà.
Sur les plateformes, c'est ça?
Non, mais j'ai même pas envie de dire ça, puisque du coup, moi, Camailleux, j'allais même pas en boutique, j'allais en ligne.
Oui, mais bon, on alimente un autre réseau, etc.
Exactement.
Bref, c'est ce que tu aides pas d'un côté, c'est l'autre. Donc, il faut savoir s'adapter. Bon, c'est très difficile, mais en tout cas, là où je te rejoins, c'est extrêmement difficile de pointer, de dire c'est de cette faute-là ou c'est à cause de ça. Mettre sur le coup du virage du digital, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, on sait pas ce qui se passait, parce que peut-être qu'ils étaient bien équipés, mais ils ont pris les mauvaises décisions, ou juste c'est un concours de
ce qui leur a été reproché,
il y a plein de trucs.
Voilà, ouais. mauvaise gestion des priorités. Et puis, j'ai vu que c'était peut-être pas faux, que Camailleux, au bout d'un moment, avait fait un recentrage très RSE, que finalement, la cliente ne s'y retrouvait plus parce qu'elle s'en foutait, que ce qu'elle avait envie d'acheter, c'était des vêtements, de se retrouver plus dans des tendances que dans des mouvements et dans de la responsabilité. Ce qui, moi, ne me dérangeait pas du tout de la part de la communication de Camailleux. Mais Camailleux, par exemple, c'était l'un des précurseurs dans le live shopping, tu vois, ou dans ton personal shopper. Dans le programme de fidélité aussi, ils étaient très forts. Donc, pour moi, dire qu'ils ont loupé le virage de la transfo digitale, c'est faux. Mais il y a eu aussi le Covid qui est passé par là. Avant, il y a eu les Gilets jaunes. Il y a, toutes les boutiques qui ont été fermées. Oui, ça a frappé tout le monde. Peut-être que ça a été plus dur puisqu'ils étaient déjà dans une situation financière critique au moment du Covid. Bien évidemment que ça a accéléré la chute de Camailleux. Allez, j'arrête. Et s'il y a des gens de Camaïeu qui m'écoutent, eh ben, je vous dis
oui,
bon courage.
Enfin, au-delà c'était du site, en fait, dans notre réseau, on a un paquet de personnes. Donc nous, c'est réseau professionnel sur LinkedIn. Il y en a beaucoup qui travaillent chez Camaïeu, qui travaillaient ou qui travaillent chez Camaïeu. Et c'est vrai que nous, sur le coup, sur LinkedIn, ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Quoi. Quand d'autres vont marquer. Mais tu as raison, Camaïeu, c'est une marque qui, contrairement à d'autres marques qui ont fermé ces dernières années, c'est quand même une grosse marque. Ou en tout cas, qui avait une...
Ouais, qui avait une grosse visibilité et qui, dès le début, avait pris le virage du digital. Enfin, franchement, 2012, 13, 14, ils étaient déjà équipés ou ils cherchaient à s'équiper complètement et qui voyaient l'écosystème e-commerce vraiment comme une brique complète et pas juste comme un magasin supplémentaire, mais en ligne.
Yes. Écoutez, bon courage à tous.
Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, qu'on l'utilise ou qu'on le contourne par conviction, par passion ou même par dépit. Amazon est un acteur e-commerce incontournable. L'Amazon, c'est notre rubrique qui décrypte l'actualité du géant américain et je crois ne pas mentir en disant que c'est l'une des rubriques préférées d'Adrien.
Toutes les rubriques, ce sont mes rubriques préférées. Non. Ce que je trouve une petite aparté, bah regarde là, t'étais un gros événement e-commerce. Combien de conférences sur Amazon?
Bah,
je veux
zéro.
Dire zéro. J'y
zéro.
Étais pas. Voilà.
On ne prononce jamais le gros mot
voilà,
Amazon.
Franchement, c'est pas abusé. Mais ça,
je l'ai
bon,
prononcé
bref,
pourtant
ça.
Lors de ma conf. Mais
non, mais bon, bref. Donc, oui, pourquoi je l'aime bien, c'est pour un peu pour contrebalancer. Mais encore une fois, ce qui m'énerve aussi, c'est quand tu vas voir certaines personnes qui parlent d'Amazon, vu qu'elles ont leur business dessus, c'est la secte Amazon. Donc, il faut juste faut en parler, mais il ne faut pas non plus tomber dans les excès. Bref. Quelques news Amazon et du coup, comme on n'était pas là quelques semaines, il y a eu des gros trucs. Alors, je te dis le titre de la news et ça a été relayé sur le groupe WhatsApp. Donc, je me suis dit, waouh, c'est un gros truc. Tremble Bitcoin, Amazon désigné pour créer l'euro numérique par la BCE. Là, on est à la limite. Bon, déjà, c'est putaclic, mais on est à la limite de la fake news. Parce que quand tu creuses
finalement.
Mais en plus, ce qui est... Bon, bref, parce qu'après, on va reparler sur plein d'autres sujets. Mais en regardant la source, parfois, tu devines aussi comment ils vont traiter le truc. Et quand tu es à un truc qui s'appelle, je ne sais pas quoi, le journal de la crypto.fr, bah, tu sais qu'ils ne vont peut-être pas être contents et qu'ils vont être super sarcastiques. Peu importe. Là, de quoi il s'agit, c'est la Banque Centrale Européenne qui va collaborer avec 5 entreprises pour développer des interfaces utilisateurs pour l'euro numérique. Il y a Caixa Bank, espagnol, Worldline, EPI, je crois que c'est italien, Nexi et Amazon. Et chacune de ces entreprises, elles vont travailler sur un use case. Et à la fin, ils vont remettre un rapport. Et ce rapport, ça sera une sorte de prototype pour des réflexions pour la suite. Donc en fait, il n'y a rien du tout.
Ah,
c'est juste des réflexions pour des réflexions. Si tu vois, ils sont même pas au niveau du POC. C'est même pas le MVP. C'est réfléchissons à quoi ça pourrait ressembler. Ça va prendre des années. Il y aura certainement rien qui va se passer à la fin de tout ça. Donc, la grosse news, tremble Bitcoin et Amazon désigné pour créer l'euro numérique par la BCE. Non, il y a rien du tout. Et chaque acteur aura un use case très particulier. Dans ce cas-là, tu comprends pourquoi Amazon est impliqué. Caixa Bank, ça sera le paiement en ligne peer-to-peer. Le Worldline, ça va être le paiement peer-to-peer offline. EPI, c'est les paiements en point de vente, les paiements en point de vente, c'est ça, un réseau enfin, interbancaire européen. Nexi, c'est pour les points de vente, c'est également pour les points de vente et commerce électronique avec Amazon. Donc chacun a un use case particulier, ils vont travailler dessus, ils vont travailler ensemble et ils vont remettre un rapport. On en entendra parler dans quelques mois si on entend la suite. Donc il n'y a rien à voir. Je pense qu'il n'y a, rien à voir, on verra bien.
Beaucoup de bruit pour rien.
Deuxième news, pardon ?
Beaucoup de bruit pour rien à ce stade.
Voilà, c'est ça. Mais je crois que... Ouais, je sais pas si ça fait vraiment...
Il n'y aura pas
d'autre si ça fait du bruit. Non. Tu sais quoi? Tu as raison parce qu'en fait, je l'ai retrouvé beaucoup dans mes flux et tout ça, quoi, ce truc. Deuxième petite news et on va passer rapidement dessus, c'est Vico, boîte que Amazon avait rachetée, une boîte qui te permet de vendre sur des marketplaces et de sélectionner automatiquement le meilleur transporteur en fonction de ton produit, d'où tu vas envoyer ton produit, etc. Ils avaient racheté cette boîte l'année dernière. Tu payes environ $500 par mois pour l'utiliser et rendre ça gratuit pour tous les sellers, donc plutôt cool. Amazon qui met à disposition cet outil-là. Les livres, bah ça te concerne directement parce que c'est toi qui lis dans le duo. Les frais de livraison obligatoires à 3 euros pour les livres. On était jusque-là, tu sais, Amazon pratiquait le 1 centime. Donc, il y avait frais de livraison, mais qui étaient dérisoires. Et là, la loi a tranché. Tu vas devoir payer 3 euros par livre. En moyenne, les frais de livraison ils sont de 7 euros. Donc, payer 3 euros, c'était un consensus qui semblait être raisonnable. Et au final, personne n'est content. Les livreurs te disent, bah ouais, mais ça me coûte 7 balles de livrer. On aurait aimé à la limite faire 4,50 euros, mais 3 euros, c'est trop peu. Amazon n'est pas content parce que de toute façon, ça casse le modèle. Il faut avoir un panier minimum de 35 euros de livre avant d'avoir la livraison offerte. En sachant qu'Amazon gère aujourd'hui 10% des ventes en France de livres. Il y a une règle qui dit, quand personne n'est content, c'est que c'est la bonne solution parce que c'est toujours dur de trouver des bons compromis. Tu l'as vu passer?
Oui, je l'ai vu passer et je tiens à préciser que je ne suis absolument pas concernée puisque mes livres, je les achète en librairie.
Voilà. Ouais, mais là, ça serait si tu veux acheter. Oh, ok, si tu veux acheter en ligne, ok, d'accord. Okay. Bah, c'est très bien. Et c'est militant, c'est ça? Tu l'achètes en.
Oui, c'est exactement. C'est tout à fait militant, engagé, tout ce que vous voulez. Et pourtant, je fais amende honorable pendant très longtemps. Par simplicité et par flemme, j'achetais sur Amazon.
Et donc, tu contribues peut-être pas beaucoup à l'impact qu'a Amazon en France. Tu voulais nous dire le gros chiffre qu'on a découvert?
Le gros chiffre, eh bien, c'est 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2021 pour Amazon, soit plus de 23%. Alors oui, je contribue d'une autre manière, pas via les livres, mais avec d'autres choses. Et toi, Adrien, c'est toute ta vie qui contribue à ce chiffre d'affaires.
Ouais, ben non, mais ouais, c'est 90% de mes achats sont faits là. Et sinon, c'est sur d'autres sites, mais on en parlera justement de ces autres sites. On passe à la suite, Laetitia?
Allez, on passe à la suite. À la suite, moi, je vois surprise sur mon prompteur. Et génial.
Exactement, exactement. Non, je voulais pas te le dire, je voulais un peu hacker. Alors, pour cette nouvelle rubrique, j'ai brainstormé tout seul avec des noms de rubriques.
Parce qu'on est d'accord qu'on ne s'est pas du tout concerté. Donc
tu ne sais pas du tout de ce qui va se passer ces prochaines
minutes. C'est sûr que je n'ai rien validé.
Mais justement, c'est ça qui est fun. Mais peut-être qu'il n'y aura jamais de suite. Alors voilà, le nom de la rubrique, j'en ai plusieurs. Tu me diras s'il y en a une qui te plaît ou pas. Géante verte, la rubrique pour un verre durable. Green lanterne éteinte, quand est-ce qu'on l'allume? Seconde main sur le cœur, la rubrique qui félicite les belles initiatives. Green tech window, la séance hebdo qui ne brûle pas de calories mais qui fabrique des neurones. Retail Beyond Good and Evil, la partie ne dure qu'une vie. Ceux qui ont la rêve, bravo à vous. Ouf ta fenêtre, c'est le tiers temps, fini la seconde main, on passe en première. Rubrique à vrac, on débat les initiatives vertes du retail. La RSE au RSA, la revalorisation, c'est maintenant. J'étais sûr que t'allais adorer cette politique, la punchline politique.
C'est ma préf. En plus, t'as osé RSE, RSA.
Ouais, non, au final, j'en ai choisi une autre, c'est Green Commerce, la rubrique No Bullshit pour stopper le commerce irresponsable.
Ah,
ça, c'était mais ça, c'était à la Laetitia, mais à l'Adrien, c'est autre chose. Et donc, la rubrique finale, c'est ça, Green Commerce, la rubrique positive et feel good pour un commerce plus responsable. Donc, je te propose de tester une nouvelle rubrique. On va parler dans cette rubrique de news, de start-up, de campagne, de chiffres clés, de benchmark, de quoi que ce soit autour du green, quelque chose qui ne soit pas chiant. On ne veut pas être moralisateur, on ne veut pas de bullshit. Et si vous avez des ressources intéressantes dans le domaine de l'e-commerce, du retail, envoyez-les nous et on sera un plaisir de le relayer. Pour cette semaine, j'avais deux petites news. La première, c'est une boîte qui s'appelle EcoCart qui a levé 14 millions de dollars et qui te permet de retravailler ton expérience shopping. Et en gros, tu vas pouvoir rajouter sur ton site e-commerce un petit bouton. Et le consommateur, quand il sera sur son panier au moment d'acheter, il peut rajouter 50 centimes et faire en sorte que ça soit carbone neutre, la commande. Donc, c'est un peu comme, tu sais, quand tu es à Monoprix, ou je ne sais pas si Carrefour le fait, mais je sais que Monoprix, oui. Est-ce que tu souhaites arrondir au-dessus et puis tu aides une association ou quoi que ce soit? Donc là, on est vraiment dans ce truc-là. Donc moi, je trouve qu'on est limite dans le bullshit parce qu'en fait, ça va faire quoi? Si tu veux vraiment réduire l'empreinte carbone, il faut arrêter d'acheter. Mais ça te permet de sensibiliser entre ne rien faire du tout et commencer à sensibiliser le consommateur, de se dire bah écoute, ça a un impact, etc. Je trouve ça cool, donc c'est pour ça que je l'ai gardé dans cette rubrique, et je suis certain qu'il y a plein d'acteurs français qui font ça. Il faudrait que je regarde, je sais qu'à Paris Retail Week il y avait des acteurs autour du green qui permettaient d'analyser ton site, etc. Mais voilà, peut-être de temps en temps je vous ferai des recos. La deuxième chose que je voulais te partager, c'est le classement des industries qui polluent le plus, qui ont la plus grosse empreinte carbone. Ben non, mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on nous tape dessus, on est dans l'e-commerce, dans le retail, etc. Ben écoute-moi bien, tu dois peut-être beaucoup d'auditeurs le connaissent, et moi, je suis assez novice là-dedans, donc j'apprends au fur et à mesure. Le premier, c'est l'énergie, tout ce qui est électricité et chauffage. Deuxième, c'est le transport. Troisième, c'est la construction. Quatrième, l'agriculture. Cinquième, la bouffe, food retail. 6e la fashion et 7e la technologie. Donc tu vois, on est, alors c'est très mauvais, il faut qu'on fasse déjà. Mais il faut que ça soit feel good. Donc on n'est pas si mal que ça. La réalité, c'est que dans le transport, seulement 10% c'est le transport de marchandises, du shipping. Donc pareil, on pourrait dire oui, mais l'e-commerce est lié directement au transport, mais c'est qu'une partie. Alors toutes ces industries, tout est lié. La fabrication, il faut de l'électricité pour les usines, etc. Donc, on n'est pas en train de dire que la technologie ne pollue pas. Je dis juste que si on veut avoir un impact dans le monde, oui, on doit baisser l'impact technologique, mais on doit aussi regarder tous ces autres aspects.
Mais très belle initiative, Adrien. Très belle initiative. Ouais. Je me sens un petit peu démunie parce que je n'ai rien préparé. Normal, c'était une surprise.
Ouais, mais c'était une petite surprise. Tu valides, ça passe le crash test ou pas
Je valide. En plus, je pense qu'on va avoir de âpres débats sur ces sujets-là. Donc, je valide. Et surtout, pour nos auditeurs, sachez qu'il y a presque 4 ans, quand on a lancé le podcast.
J'étais sûre que tu allais le faire.
Avec Adrien.
J'étais sûre que tu allais sortir cette phase.
Avec moi-même.
J'étais sûre, tu vois. Je me suis dit, la connaissance, vas-y,
oui,
finis
bah
le.
Exactement.
J'étais sûre. Vas-y. J'ai ma réponse de prête parce que je savais ce que tu allais dire. Donc vas-y.
Je tenais à ce qu'il y ait une rubrique RSE, green, toutes ces choses-là. Autant vous dire que j'ai été virée, écartée de la ligne éditoriale et je suis ravie de voir que 4 ans après, ce sujet revient.
Celui qu'on doit montrer du doigt, c'est celui qui sait et qui ne fait rien. Ça, c'était ma punchline.
Qui sait, qui ne fait rien. Non, c'est pas vrai. Si on réécoute les 126 épisodes, à chaque fois, je suis hyper engagée. Moi qui porte les
chacun,
sujets.
Et chacun fait ça à sa manière. On contribue comme on peut. Mais moi, ça a été ça. Il y a plusieurs choses qui sont faites.
Ce qu'il y a bien, c'est de voir ton évolution aussi. C'est ça, Adrien.
Des événements, être en contact. Bah, tu vois, là, on était la semaine dernière à Bruxelles, ou il y a quelques jours, on était à Bruxelles. Donc, c'est ce genre de rencontre. Un déj ou un verre que j'ai pris avec François Duranton. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé parce qu'il est très porté par cette cause. Et puis, toutes les personnes qu'on a reçues au micro ou toutes les choses qu'on voit apparaître, j'ai envie, à notre manière, c'est ça, qu'on puisse un peu contribuer et éduquer, mais vraiment à notre niveau.
Il faut qu'on fasse des épisodes low carbone et voilà, faudrait qu'on calcule combien est-ce qu'on émet de...
Eh bien écoute, tu sais quoi, je voulais pas faire cette troisième, et ben comme tu rebondis dessus, il y avait une troisième news que je suis passé à la trappe. C'est un exemple de site éco-responsable. On vous mettra le lien parce que je sais pas ce que c'est un site. Et là, tu as les best practices, je l'ai stoppé sur le blog de Frédéric Cavazza. C'est dalkia.fr. Tu vas sur le site, il t'explique, il est canon. J'ai même pas envie d'en dire plus. La manière dont ça a été designé, la manière dont il a été construit, etc., c'est low carbone. Ils ont balancé toutes les best practices dans un site. Donc si tu te dis, vas-y, je veux faire un site qui émet peu ou en tout cas qui a une empreinte carbone faible, qu'est-ce que je dois faire, tu vas sur ce site et tu comprends. Et non, c'est pas moche, non, c'est pas chou, c'est différent et c'est intéressant. Dalkia.fr, et en plus, c'est rattaché à EDF, donc tu dirais que c'est vraiment les derniers à faire ce genre de choses. Et en fait, c'est bien le contraire, c'est les premiers avec des Orange, La Poste et compagnie à investir dans ces sujets-là. Avançons, Laetitia, parce que
Avançons, merci pour cette belle surprise, je pense que nos auditeurs apprécieront. Reco micro. C'est toi.
Au micro, oui. On fait notre reco. Écoutez là, illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien de cet épisode. Et ça, je pense que c'est vraiment la rubrique préférée de Laetitia. T'as toujours plein de recos que tu nous sors à toute heure. Quelle est ta reco? Est-ce que c'est une reco feel good ou pas?
Pas du tout. C'est une reco engagée. Ah, on voit pas la mince. C'est dommage. Si, on voit un tout petit peu. Bon, il s'agit d'un livre qui s'appelle Les nouveaux travailleurs des applis. Comment les applis bouleversent nos manières de travailler. Oui, c'est feel good, c'est tout plein de choses. En gros, c'est comment est-ce que le capitalisme des plateformes a érigé de nouveaux métiers. Je crois que j'en avais déjà parlé avec un autre livre, mais surtout comment est-ce que ça a construit une nouvelle non-économie ou économie. Tout ça vu par une maîtresse de conférences en sociaux et aussi un sociologue. C'est aux éditions PUF, donc PUF, c'est les presses universitaires de France. C'est pas beaucoup de pages, ça se lit très rapidement. Ce sont des concepts économiques et sociologiques. C'est assez accessible, mais c'est pour aller un petit peu plus loin que tous les documentaires Arte que je vous ai déjà partagés.
Et c'est quoi la conclusion du bouquin?
La conclusion, c'est que c'est un petit peu, n'importe quoi.
Voilà. Ouais, ça nous perturbe complètement. Non,
les modèles pourraient être repensés. La réalité, c'est que tous ces acteurs, toutes les plateformes, n'ont jamais réfléchi aux conséquences que pouvait avoir leur économie. Et c'est surtout qu'à chaque fois, quand on prend une idée de base, je ne sais pas moi, Instagram par exemple, le business model de base d'Insta n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Donc finalement, il y a plein de métiers qui se sont greffés. Ou même d'Uber, par exemple, plein de métiers qui ont été créés, qui se sont greffés, mais qui n'étaient pas prévus. Donc, ces acteurs-là, est-ce qu'on peut les blâmer ? Oui et non. Ils n'ont pas anticipé. C'est un gros problème quand un entrepreneur et en même temps, nous consommateurs, on concourt et on participe à ce business model-là et parfois sans commune mesure. Donc, tout est relatif. Et
que ça s'adapte, c'est pas ça le problème. C'est que ça s'adapte vers quelque chose qui est peut-être malsain, c'est ça ?
Oui, voilà, ça c'est mon opinion, c'est que parfois ça s'adapte vers quelque chose de totalement malsain. Si on prend l'exemple par exemple d'un Instagram.
Ah oui, à la base c'est fait un truc pour partager et puis ensuite comme
pour
c'est
partager des photos
de la pub,
et finalement
on
ça rend des adolescentes complètement
peu...
folles quoi.
Voilà. Ouais, c'est les dérives. OK, mais qui sont dures à planifier avant.
Si vous suivez l'ensemble de mes recos, vous voyez que ça tourne toujours autour de la même chose, donc vous connaissez.
Sérieux, on n'avait pas remarqué.
Mon avis sur le sujet.
Pas remarqué du tout.
C'est la fin de cette émission. Adrien, je crois qu'on arrive au panier surprise. Et comme dirait si bien un illustre poète, la vie, c'est comme un panier surprise. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre bien. Le panier surprise, c'est la rubrique des jeux autour du e-commerce. Et cette semaine, nous jouons et nous rigolons avec un jeu qui s'appelle What the Fake, concocté par Adrien.
Le what the fake, je l'aime bien, c'est tu prends des news, il va falloir laisser là que tu me dis si c'est une fake news ou pas, si elle a été inventée ou si c'est une vraie news. Est-ce que tu es prête ? J'en ai quatre.
Allez, prête.
Alors, la première news est dans le chat. Pour ceux qui sont en live, vous pouvez également participer. Première news. Comme je t'ai dit hier, Google avait sa grosse conférence pour annoncer les nouveaux produits. Google annonce son Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro et les met en vente sur Amazon en plus de son store en propre. Vrai ou faux ?
Mais j'ai envie de dire que c'est faux, mais ça pourrait être vrai aussi. Non, c'est faux.
Eh bien, je vais te raconter une histoire. Quand je crée des fake news, je m'inspire de vrais trucs. Donc, j'ai créé la fake news. Et je me dis, tu sais quoi, je vais quand même vérifier sur Amazon. Et en fait, c'est une fausse fake news. Donc, en vrai, c'est vrai. Il y a effectivement, je suis choqué, il y a le Google Store. Je savais qu'il y avait une page Google Store officielle sur Amazon et tu peux précommander. Tu n'as pas les discounts ou tu n'as pas les offres particulières sur Google Store, mais tu peux effectivement acheter de manière complètement officielle tes produits Amazon le jour même où ils ont annoncé c'était disponible sur Amazon.
Donc les GAFAM se concertent et arrivent à faire du biz ensemble.
C'est ça qui est rigolo.
C'est génial.
D'ailleurs, c'est là où ça avait fuité sur Amazon. Mais bon, je n'avais pas conscience qu'à ce point, ils mettent un dispositif où ils ne cherchent pas à tout prix à te faire acheter sur leur site. Mais bon, il y a des gros discounts si tu achètes directement chez Google. Deuxième news. Donc, du coup, tu t'es trompé.
Du coup, j'ai perdu.
Deuxième news. Elon Musk veut faire de Twitter une super app commerce à l'instar de WeChat.
Oui, vrai.
Exactement. C'est bien vrai. Notre mégalo-chéri a ça en tête. On va voir ce qu'il va faire. Il va d'abord prendre Twitter, le détruire complètement.
Ouais, exactement. L'écraser.
Ensuite, il va faire un truc. Mais bon, bref. Troisième news. Donc, bravo. Virgin Galactic lance son nouveau site e-commerce pour les voyages spatiaux qui débuteront en 2024. Donc, tu peux acheter directement
Virgin
ta
Galactic,
place
déjà,
en ligne.
Ça existe toujours. OK, Richard Branson, d'accord. Et 2024. Écoute, j'ai envie de dire oui. Hein. Jeff Bezos a fait des choses déjà, donc je dis oui.
Alors,
2024, c'est demain.
D'accord. Alors, la partie, donc c'est faux. Et la partie qui était faux, c'est lance son nouveau site e-commerce. En fait, le prix de la place est $450,000. Donc, non, tu ne peux pas acheter sur son site internet. Tu peux t'inscrire en liste d'attente sur le site, mais tu peux pas acheter. Et enfin, dernière news, Instagram est la marque la plus influente sur les réseaux sociaux devant Apple, Disney, Nike.
Oui. Je ne sais pas. Oui, allez, je dis oui.
Et c'est une bonne réponse. Pareil, j'étais bluffé.
Parce que j'ai
Instagram,
vu plein de trucs passer là sur les marques sur Instagram.
Instagram en premier. Vous retrouverez un article sur Comarketing News. Instagram en premier, Apple, BMW, Tesla, Disney, etc. Mais Instagram, ils sont de loin devant.
Indéboulonnable.
Ouais. Non, mais c'est ouf. Et en fait, ils expliquent que Instagram... Bah moi, je ne suis pas sur Instagram, donc j'en sais rien, mais apparemment, ils sont très actifs. Ils prennent des positions aussi. Ce n'est pas des trucs lissés, tu vois, sur la diversité, sur plein de sujets un petit peu peut-être clivants. Ils sont polarisants. Ou en tout cas, ils prennent des positions et puis ils les mettent en avant. Donc, plutôt cool. C'est une marque engagée, en gros. Ce que j'aurais pas du tout dit.
C'est marrant parce qu'on appelle ça une marque, mais c'est un réseau social, c'est une plateforme, c'est une marque, mais c'est aussi un média. Donc, tout est un peu flouté. Mais oui, va pour la marque, alors, si c'est un classement de marque.
Et puis, ils font des collabs avec les TikTokers, etc. Ils mélangent tout ça. Enfin, ils sont plutôt pas mal. Bah, écoute, bravo, Laetitia. T'as réussi. Félicitations.
Merci. Allez, c'est la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 126. Ça nous fait plaisir de revenir en live. C'est sympa d'arpenter les routes de France, mais c'est aussi sympa d'être en live avec vous. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen, c'est de le faire vivre, de le partager, de le commenter, de le liker, de laisser 5 étoiles. Au passage, sur Spotify, on a juste 22 notes, donc ce serait bien de refaire un peu le niveau. Merci.
On partage l'épisode, on lâche sa pied sur Patreon, on s'inscrit à la newsletter, on rejoint le groupe WhatsApp, on se marre quand même sur le groupe WhatsApp. Enfin, moi, ça me fait marrer. Il y a quand même des blagues toujours qui tournent autour de l'e-commerce, mais le groupe est complètement gratuit. Vous pouvez rejoindre et ne pas du tout participer, ou vous pouvez participer. On se dit à la semaine prochaine, Laetitia. Au revoir tout le monde.
Ciao tout le monde.
Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi.